La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Stanislas Franquiel. Vous publiez « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage » chez Artois Press Université. Vous avez également créé une chaîne YouTube consacrée à l'histoire du sport, intitulée « Temps de sport ». Bonjour.
Bonjour.
C'est une somme impressionnante que vous nous proposez. Vous êtes un historien du sport et le football est un fil conducteur passionnant pour évoquer les relations entre la France et l'Algérie. Toute votre recherche porte sur un constat. Il est impossible de parler du football algérien sans parler des immigrés algériens. Au Brésil, vous le rappelez, en 2014, la sélection algérienne de football comptait 16 joueurs nés en France.
Ah oui, 16 joueurs nés en France, on a bien vu là au Brésil et surtout lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, ce que j'appelle être le triomphe de la diaspora. En fait, dans mon ouvrage 15 ans de travail, hein, qui est en fait le remaniement approfondi de ma thèse de doctorat, j'ai identifié 500 footballeurs professionnels algériens en travaillant autour de différentes générations de joueurs des années 1930 à nos jours.
Alors on va remonter le temps avec vous, Stanislas Franquiel, et évoquer l'Algérie coloniale. D'ailleurs, vous citez Albert Camus qui a rendu hommage aux valeurs apprises grâce à un sport d'équipe comme le football. Quand apparaît le football en Algérie ?
Le football apparaît en Algérie à la fin du 19e siècle. Alors il y avait déjà des pratiques qui étaient déjà développées, notamment des pratiques physiques, hein, notamment la gymnastique, notamment le tir, les sociétés de tir. Mais le football et le sport arrivent à la fin du 19e siècle. C'est une passion anglaise qui se diffuse en gros depuis la métropole au travers d'échanges commerciaux, d'échanges estudiantins également, au travers d'échanges aussi de liens très forts en fait qu'il pouvait y avoir entre ces deux territoires séparés ou alors liés par la Méditerranée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les premiers sportsmen, on les appelait les sportsmen en Algérie, sont des Européens d'Algérie, bien sûr, viennent tous de milieux étudiants, de milieux lettrés, de milieux plutôt bourgeois, et vont quelque part, entre guillemets, importer cette pratique surprenante, cette pratique anglomane en Afrique du Nord.
Et au temps de l'Algérie coloniale, comment étaient composées les équipes de football ? Il y avait des clubs pour les colons, des clubs pour les indigènes, ou bien est-ce qu'il y a eu des équipes mixtes ?
Alors en fait, ça dépend vraiment des périodes. En fait, les premiers clubs qui vont naître vont être des clubs, entre guillemets, d'abord des clubs du colonat ou des clubs marqués par une identité religieuse, mais d'abord, avant tout, ce sont des clubs d'étudiants, je l'ai dit. Alors, il y a des clubs qui peuvent s'appeler comme le Sporting, etc. Progressivement, dès les années 20, vont naître des clubs qu'on appelle des clubs musulmans d'Algérie, puisque ce sont des joueurs musulmans, issus souvent de la haute société coloniale, qui n'ont pas, proche du colonat, qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans les clubs européens d'Algérie et qui vont créer leur premier club qui n'ont pas encore, à cette époque-là, dans les années 20, une dimension identitaire très forte. En 1921, on va être créé le Mouloudia Club Alger. On va voir que dans les années 30, notamment après le centenaire de l'Algérie française, il va y avoir des revendications de plus en plus fortes et ces clubs musulmans vont être des foyers du nationalisme algérien. Ce qui est important de voir, c'est qu'entre ces deux types de clubs, les clubs européens et les clubs musulmans, d'un côté des clubs assez aisés financièrement qui obtiennent des subventions publiques et de l'autre, il va y avoir des fortes tensions, notamment lors des derbies, des matchs qui sont surveillés par les renseignements généraux. Les archives se trouvent à Aix-en-Provence, au Centre National des Archives d'Outre-mer. Mais aussi, il va y avoir des formes de passerelles avec des joueurs musulmans qui vont aller jouer dans les clubs européens d'Algérie, où ils vont être souvent très bien reçus. Et ça, c'est quand même une surprise. Alors, il y a le Racing Universitaire d'Alger, mais surtout aussi l'AS Saint-Eugène à Alger. Et là, pour ces jeunes joueurs, pauvres, Ça va être un nouveau monde qui va s'ouvrir. Alors, le monde du colonna, le monde où on va s'habiller différemment, où on va pouvoir obtenir un travail, où on va pouvoir aussi fréquenter des femmes, entre guillemets, européennes d'Algérie ou des jeunes filles. Et puis aussi, tout un habit vestimentairement. On a vraiment des clubs de notables contre des clubs, entre guillemets, indigènes bien plus pauvres. Et ce qu'il faut voir, juste pour finir, c'est que la plupart des, enfin, la moitié des footballeurs qui viendront jouer dans la métropole dans les années 50 seront issus de ces clubs européens d'Algérie, puisqu'il y aura des facilités, des liens plus forts avec le championnat métropolitain.
Alors, vous avez rencontré des joueurs de football aujourd'hui âgés, vous êtes allé en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces joueurs algériens qui ont intégré des clubs dans l'Hexagone à partir des années 50?
Ah oui, c'est vrai que ça a été de formidables rencontres. J'ai passé plus de 4 mois en Algérie à la recherche de tous les anciens footballeurs professionnels que je pouvais, de toute génération. Le plus vieux rencontré, j'en fais le portrait à la fin du chapitre 1, avait joué au Havre dans les années 30, en 1937. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est quand on est un jeune chercheur de voir quelqu'un qui avait joué 80 ans plus tôt. Alors ce qu'on voit, c'est quand même cette attirance vers la métropole qui peut s'expliquer pour des raisons culturelles, des raisons historiques, des raisons géographiques, des raisons sportives aussi, des raisons économiques, je l'ai dit. Et on voit que la métropole va être pour eux une expérience émancipatrice. C'est là-bas qu'on va bien les accueillir, qu'on va les appeler monsieur. C'en est fini de l'ordre socio-racial injuste de l'Algérie coloniale. Là-bas, ils vont souvent rencontrer des femmes françaises avec lesquelles ils vont, pour la moitié d'entre eux, se marier. Ils vont aussi gagner confortablement leur vie, en fait. C'est tout un destin qui s'ouvre à eux. Et en métropole, ils vont avoir aussi des amitiés avec des joueurs, pas forcément algériens, des étrangers, dans un championnat qui est lui-même de plus en plus, enfin, c'est les débuts du cosmopolitisme, en fait. Il y a quand même 2 ou 3 joueurs étrangers par club, en fonction des saisons. Et donc, c'est une expérience qui est très forte pour eux. Et tous me tiendront le même discours. Nous n'étions pas contre la France, mais contre un système colonial. Et ça, c'est quelque chose de très fort, en fait, dans leur discours. Et certains, après leur carrière, resteront en France ou s'installeront définitivement dans l'ancienne métropole.
Stanislas Frankel, on va parler bien sûr tout à l'heure de l'équipe du FLN, mais durant la guerre d'Algérie, la plupart des joueurs, qu'ils évoluent en France ou en Algérie, ne se sentaient pas concernés directement par la situation politique?
On va dire que ils étaient concernés si, parce qu'ils voyaient, ils étaient témoins, ils avaient été eux-mêmes victimes de discrimination dans l'Algérie coloniale, ils ont bien vu, même s'ils étaient passés pro en France, ils avaient bien vu les sorts réservés à leurs parents, à leurs cousins, à leurs frères. Et puis le sport, c'est comme une, on peut le voir aussi comme une petite bulle autonome, quasiment protectrice. Une bulle à part, même s'ils n'étaient pas des militants politiques, ils n'étaient pas insensibles à cette cause de l'Algérie algérienne. Et ils ne pouvaient pas d'ailleurs, parce que ils voyaient bien l'injustice, en fait, qui continuait à régner dans cette Algérie, ou alors on parlait d'événements et non de guerre d'Algérie.
Alors, vous consacrez un chapitre entier à l'équipe mythique du FLN, les joueurs de la Révolution. Comment est née cette équipe en pleine guerre d'Algérie?
Alors oui, j'ai eu la chance de rencontrer la quasi-intégralité des survivants de cette équipe du FLN en France et en Algérie. Alors, pour répondre à votre question, il y a des versions quand même différentes, puisque après la guerre d'Algérie, il y a eu une forme de captation mémorielle. Chacun a voulu s'approprier un petit peu, la genèse, l'origine, la paternité de cette équipe. En tout cas, ce qui semble, c'est que ce soit la Fédération de France du FLN qui, via un ancien footballeur professionnel qui s'appelait Mohamed Boumezrag, a eu cette idée de fédérer les meilleurs footballeurs professionnels du moment. En 1958, je pense à Moustapha Zitouni, je pense à Ben Tifour, qui était international également, je pense international français, je pense à Rachid Mekloufi, la pépite de l'AS Saint-Etienne, pour former. Donc l'idée, c'est de former la première équipe nationale algérienne, et on est quand même en 1958, 4 ans avant l'indépendance. Il y aura 4 vagues de départ, c'est-à-dire que il y aura 4 départs clandestins de joueurs entre avril 1958 et novembre 1960. Tous ces joueurs, donc en tout cas, vont se retrouver une trentaine à Tunis, et la plupart d'entre eux vont faire des matchs dans 14 pays socialistes, Yougoslavie, ils vont aller en Chine, ils vont aller au Vietnam, et ils vont pour la première fois faire se dresser le drapeau algérien, montrer que la révolution algérienne, c'est pas simplement une révolution qui est militaire, mais qui peut être aussi diplomatique. Et quand on le sait, en fait, on le sait, c'est que le rôle de l'ONU, le rôle de l'internationalisation du conflit a été clé dans l'indépendance de l'Algérie. Et donc, sans doute, cette équipe a eu sa part aussi, a pris sa part dans son rôle, en fait, de libération de l'Algérie en 1962.
Stanislas Frankel, ce que vous nous dites, c'est que ces joueurs du FLN qui ont voyagé à l'étranger ont été de véritables ambassadeurs de la nation algérienne en lutte pour son indépendance.
Tout à fait, ce sont des ambassadeurs. Et alors qu'on présentait en fait les maquisards, les félagas comme des sanguinaires, eux arrivaient avec leur éducation, leur statut de sportif de haut niveau, en costume. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils gagnent des matchs. Sur 83 matchs en 4 ans, ils en gagnent 57. C'est une équipe redoutable et donc qui est respectée et qui, à l'échelle internationale, va, je l'ai dit, Yougoslavie, va aller jouer aussi au Moyen-Orient. Et donc, il va y avoir des tournées organisées, des tournées de prestige, des tournées de gala où ils vont récolter des fonds pour financer la cause armée, pour financer évidemment le FLN.
Alors je l'ai dit, le football est un fil conducteur pour comprendre les relations entre la France et l'Algérie. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des joueurs de football algériens dans les équipes algériennes, mais aussi en France.
Tout à fait, c'est inévitable. La France et l'Algérie ont une histoire en partage, mais ont aussi le football en partage. Et ce que je me suis attaché sur le temps long dans mon travail, c'est à montrer différentes générations de joueurs. Donc tout d'abord, schématiquement, les migrants sportifs, la génération Mekloufi, ceux qui quittent un club algérien pour un club français, très présent dans les années 50. Ensuite, il y a dans les années 70, les migrants familiaux, la génération d'Aleb, PSG, ceux qui sont nés en Algérie mais qui ont grandi en France, qui ont été formés en France, aussi à Sedan. Et enfin, la troisième génération, c'est ceux qui sont nés en France et qui prennent le pouvoir, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux dans les clubs français, mais aussi dans le monde entier, mais qui sont aussi de plus en plus nombreux depuis les années 80, et surtout après la décennie noire, dans l'équipe nationale algérienne, puisque vous l'avez rappelé, trois quarts des footballeurs de l'équipe nationale algérienne aujourd'hui sont des joueurs qui sont nés en France ou qui ont grandi en France. Et le sélectionneur national algérien, Djamel Belmadi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, est né à Champigny-sur-Marne.
Et dans ce livre, Stanislas Frankel, vous publiez beaucoup de documents sur cette histoire du football algérien, et notamment à l'occasion de la Coupe du Monde de 1982 en Espagne, l'album Panini, que collectionnent tous les enfants, présente l'équipe algérienne. La plus grande star de cette époque, c'était Rabah Madjer.
Tout à fait, Rabah Madjer, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Alger, dont je fais un long portrait dans l'ouvrage. Effectivement, l'équipe de 82, c'est là aussi ce que j'appelle être la revanche du Sud contre le Nord, avec la victoire surprise contre l'Allemagne, contre l'arrogante Allemagne, l'arrogante et puissante Allemagne, celle qui fera tant mal à l'équipe de France en demi-finale, d'ailleurs en Coupe du Monde 82. Et donc, je raconte cette histoire de cette Coupe du Monde 82, les coulisses. La personne qui signe la post-face de mon ouvrage est Ali Fergani, le capitaine de l'époque. Et j'ai rencontré beaucoup d'anciens joueurs de cette équipe, et ce qui est intéressant, c'est qu'après 82, alors que les joueurs jusque-là, les joueurs du championnat algérien n'avaient pas le droit de sortir du pays, d'aller jouer à l'étranger, après 82, il y a toute une génération, comme la génération Madjer, comme Assad, comme effectivement aussi Ben Saoul Atedj et d'autres joueurs, qui vont avoir l'autorisation du président de la République pour quitter le championnat algérien avant leurs 28 ans révolus. Et voilà, donc on voit bien les liens très forts aussi entre sport et politique. Et après, une grande phase de nationalisation du football après 1962.
Stanislas Frankel, quand on assiste à un match de football en France, on voit parfois des drapeaux algériens dans les tribunes. Certains responsables politiques ne comprennent pas pourquoi on brandit ces drapeaux algériens. Pour vous, c'est un signal positif, ce n'est pas du tout un signal négatif.
On a vu des drapeaux algériens après l'élection de Jacques Chirac à l'élection présidentielle en 2002, et même en 95, on en a vu des drapeaux. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on pourrait avoir une grille de lecture quasiment identitaire à l'Algérie, la revendication, en fait, moi, ces drapeaux, pour le coup, dans les stades, je les vois comme une fierté, mais aussi la fierté de la double appartenance. On peut poser des drapeaux, on peut montrer son drapeau algérien tout en étant français d'origine algérienne. Donc c'est une revendication, qui est identitaire, mais qui est aussi identitaire, mais qui se fait en France. Donc c'est cette double culture qui est affichée. Voilà, c'est pas du tout du séparatisme ou autre extrémisme.
Ça n'est pas une identité qui exclut l'identité française.
Je n'en suis pas sûr, et si on parle, ce que je l'analyse dans mon ouvrage, le fameux match France-Algérie du 6 octobre 2001, alors la Marseillaise sifflée, oui, c'est très crispant, on l'a vu aussi dans d'autres matchs, Maroc, France-Tunisie, on l'a vu aussi en finale de Coupe de France 2002, à Bastia-Lorient, mais surtout, quand on a vu ces jeunes envahir le terrain, on pourra en reparler plus longuement, mais ce qui me semble important, c'est que c'est aussi un message où il n'y a pas eu de violence déjà, mais c'est aussi un message d'amour, en fait, un message qui est envoyé à l'Algérie et à la France. Reconnaissez-vous, nous sommes, comme dirait le grand sociologue algérien, entre deux rives, et on en a assez de subir ce qu'on appelle cette double absence ou cette double domination, absent du pays d'origine comme absent du pays d'accueil ou du pays de naissance. Donc vous voyez, et je pense qu'aussi les choses ont changé depuis 20 ans. Il y a eu des lignes de crispation beaucoup moins fortes, il y a eu des joueurs qui ont pu jouer ce rôle des vecteurs entre plusieurs communautés. Il y a bien sûr eu Zidane, ensuite il y a eu Nabil Fekir, champion du monde, et puis il y a Karim Benzema. On n'a jamais eu autant de maillots vendus Karim Benzema depuis son retour en équipe de France. Donc vous voyez, il y a des joueurs sur lesquels les Français d'origine algérienne peuvent beaucoup mieux s'identifier, des joueurs sur lesquels peuvent se construire cette identité nationale, parfois fantasmée.
Dernière question précisément sur Zinedine Zidane. On se souvient tous de son image sur les Champs-Élysées, Zidane président en 1998. C'était véritablement la star de ces années-là et il l'est resté. En quoi Zinedine Zidane est-il emblématique de cette relation entre la France et l'Algérie à travers le football?
Il est emblématique tout d'abord par son histoire familiale, par son histoire qui est d'abord une histoire qui nous renvoie à tout ce que je raconte dans le livre. C'est une histoire de l'industrie française aussi qu'on peut lire à travers ses destins de footballeur algérien. Zidane, c'est pas le premier, fils d'ouvrier algérien, il y en a eu des centaines avant lui. Il y a Djadaoui qui a joué à Sochaux, qui a même travaillé, qui faisait des visites dans l'entreprise Peugeot de Sochaux à l'époque où il était pro. Mais si on revient à Zidane, c'est une histoire d'amour aussi entre ses parents qui se rencontrent en France, entre cousins qui se rencontrent en France. Zidane aussi, c'est une histoire emblématique parce que c'est une équipe de France qui gagne. À chaque fois avec Zidane, il y a de la victoire, ce qui est quand même remarquable par rapport aux autres joueurs franco-algériens. Et puis c'est une histoire emblématique parce que c'est une histoire qui dure. On l'a vu, sa carrière s'est arrêtée en 2006, mais elle continue avec cette reconversion qui est formidablement bien réussie à Madrid et peut-être un jour au PSG. Et donc vous voyez, c'est une histoire aussi d'amour, et Zidane n'a jamais été, lui, dans l'opposition entre ses racines algériennes et son éducation aussi française et sa formation française. Et donc ça, c'est formidable, c'est vraiment une histoire passerelle que j'ai essayé de raconter dans mon ouvrage publié à Artois Presse Université.
Merci Stanislas Franquiel. Je rappelle le titre de votre livre, Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage, publié chez Artois Presse Université. Et je rappelle que vous avez créé la première chaîne YouTube consacrée à l'histoire du sport et qui est intitulée Temps de sport. Merci d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient.
Merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.